Bonjour à tous. C'est très impressionnant pour moi de me tenir ici devant vous ce matin. Ça l'est toujours quand on apporte la parole de Dieu, parce que on sent cette responsabilité. Mais ce matin, ça l'est doublement, parce que je sais que vous attendez ce que je vais dire depuis un moment, et c'est pas facile de parler comme ça quand on est aussi attendu. Mais bon, ça fait partie de l'exercice. Je propose quand même, avant de commencer, de prier. Seigneur, Ivan nous a rappelé ce matin que derrière nos imperfections, ta création est parfaite. Et Seigneur, j'aimerais te prier ce matin que, malgré mes imperfections, chacun puisse t'entendre ce matin. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Dans le cadre de l'examen de ma candidature pour être pasteur de cette église, vous m'avez demandé à plusieurs raisons, à plusieurs reprises, quelle était ma vision pour l'église. C'est la question à laquelle je me propose de répondre ce matin. En même temps, je ne suis pas totalement à l'aise avec cela. Je m'interroge. La prédication est-elle le lieu pour aborder ce type de sujet? La prédication, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. J'ai peur que ce matin, nous soyons un peu trop centrés sur notre Église. J'espère néanmoins que ce matin, chacun, au-delà du projet dont je vais vous parler, verra l'action de Dieu. Dieu qui a de beaux projets pour nous, pour nos églises et pour celle-ci en particulier. Et je crois que c'est là une bonne nouvelle que de voir les projets que Dieu a pour nous et comment il nous invite à y participer. La vision, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois. Quelques exemples. En septembre 2011, quelqu'un lançait en AG, en Assemblée Générale, « Ce qui manque, c'est la vision ». Assemblée Générale suivante, en mars 2012, un autre regrettait « J'ai l'impression que nous n'avons pas de vision commune ». Et le mois dernier encore, concernant les attentes envers le pasteur, quelqu'un demandait à ce qu'il ait une vision pour l'Église. Mais de quoi parlons-nous quand nous parlons de vision? Quand on n'est pas certain de la signification d'un mot, on regarde dans le dictionnaire, et c'est ce que j'ai fait. Le petit Robert nous indique que la vision, c'est la perception du monde extérieur à travers les organes de la vue. Ivan nous a parlé, ça tombe bien. Hein, vous me voyez, je vous vois, c'est ça la vision. D'une façon un peu plus abstraite, c'est aussi l'action de voir, de se représenter en esprit, une façon de voir, de concevoir un ensemble de choses complexes. On peut parler d'une vision de l'avenir, par exemple. C'est une façon de concevoir, de se représenter, d'imaginer l'avenir. La question « Quelle est ta vision pour l'Église ?» pourrait donc se reformuler. Comment vois-tu l'Église ? Mais ce n'est pas encore très précis. Alors, pour rentrer plus dans les détails, pour cerner ce qu'attend l'Église, je me suis penché dans l'étude des comptes rendus de réunions d'Église. Les citations que je vais vous livrer proviennent de nos comptes rendus. Tout d'abord, la vision, telle qu'elle est attendue par notre Église, doit rassembler. Je cite, « C'est important d'avoir une vision. » Actuellement, il y a des contradictions entre nous, on s'éparpille. Ou encore, j'attends du pasteur qu'il sache fédérer autour d'une idée, d'une vision. Donc une vision qui rassemble. Une vision également qui voit sur le long terme. J'attends du pasteur qu'il y ait une vision de ce qu'il est une vision de ce que sera l'Église dans 20 ans. et mettent en place les conditions de cette évolution. Également, une vision est relativement large, globale. J'attends du pasteur qu'il ait une vision large des besoins de l'Église et de son avenir, qu'il ait une vision pour l'ensemble de l'Église, en local et en régional, par exemple avec de l'essaimage. À partir de ces éléments que je relève, je vous propose donc la définition suivante. La vision est un objectif commun, un projet à relativement long terme sur lequel l'Église s'entend, autour duquel elle se rassemble. Je vous répète la définition. La vision est un objectif commun, un projet à relativement long terme sur lequel l'Église s'entend et autour duquel elle se rassemble. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas regardé la Bible. Quand la Bible parle de vision, ce n'est pas exactement de cela dont elle parle. Dans la Bible, la vision, c'est d'abord un rêve, quelque chose de visuel et de concret, utilisé par Dieu pour parler à travers les prophètes. Et on a des exemples, en particulier dans l'Ancien Testament, avec Ézéchiel qui voit une vision devant lui et puis qui la voit ensuite se déplacer, passer au-dessus de lui. Une vision, quelque chose de visuel, utilisé par Dieu pour révéler ce qui est ou ce qui va venir. Mais pas trop ce qu'il faut faire. Ça ne nous empêche pas, nous, de rechercher cet objectif commun, à long terme, autour duquel se rassembler. Pour éviter l'ambiguïté, on pourrait utiliser un mot différent, parler aussi de projet d'église. Je pense que vision, projet d'église, ce sont des choses qu'on peut interchanger dans notre utilisation. Ce n'est pas parce que la Bible n'utilise pas le mot vision dans le sens que nous recherchons que ce sens n'y s'y trouve pas. La Bible nous donne plusieurs exemples de vision ou de projet pour son peuple ou ses serviteurs. On pense forcément à Néhémie, dont nous avons étudié le livre l'année dernière. Néhémie avait le projet de rebâtir les murailles de Jérusalem et il a su mobiliser le peuple pour y parvenir. L'apôtre Paul aussi avait des projets, il avait des tas de projets. Annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, amener une offrande à Jérusalem, évangéliser l'Espagne, voilà les projets successifs qu'il a eus. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que Dieu ne lui a pas toujours permis de réaliser ses projets. Cette expérience devrait nous rassurer concernant les projets que nous formons. Ils ne sont pas gravés dans le marbre. Le Seigneur sait nous faire entendre sa voix pour nous diriger. Restons à son écoute. La Bible nous donne un certain nombre de directives qui cadrent notre action. Mais ces directives bibliques nous laissent quand même pas mal de latitude. Et au milieu de ce large choix, il est bon pour une Église de se donner un projet qui lui permette de se concentrer, d'ôter le flou, de savoir où on va et de se rassembler. Mais comment est-ce qu'on prépare un projet d'Église? D'où vient-il? Avant de définir un projet d'Église, il est important, je crois, de connaître l'Église. En effet, un projet doit être adapté à l'Église. On ne va pas récupérer un projet quelconque pour le calquer sur n'importe quelle communauté. Cela ne fonctionnera pas. Un projet doit être adapté à l'Église qui le mène, à son identité, son environnement. Ce premier travail de connaissance de soi est donc nécessaire. Ensuite, il faut aussi être à l'écoute de Dieu. Dans Ésaïe, il est écrit « Vous faites des projets qui ne viennent pas de moi. Vous ne concevez que du foin, vous n'enfantez que de la paille. » Tout projet d'église, toute vision doit s'efforcer de suivre l'enseignement biblique. Sans cela, elle sort des clous et ne produira rien de bon. Nous trouvons dans la Bible plusieurs témoignages de ce que faisaient les églises, plusieurs recadrages aussi qui sont faits aux églises dans les différentes lettres qui sont envoyées par les apôtres. Ces directives, elles restent valables pour nous, quel que soit notre projet. Par exemple, on pourrait dire que tout projet devrait prendre en compte cette parole de Jésus. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. C'est dans Matthieu, au chapitre 28. Tout projet d'église doit tenir compte de cette directive de Jésus et inclure un objectif de développement ou de multiplication d'églises. J'ai du mal à croire que le Dieu qui a demandé d'aller faire des disciples de toutes les nations ne demande pas une église, surtout dans notre pays qui a besoin d'églises, ne lui demande pas de se développer, de croître. Ensuite, vient le temps de la construction du projet. Construction ensemble. Il faut partager les idées de chacun, les confronter, faire des compromis et trancher. J'ai du mal à croire personnellement au projet défini par le sommet, par le pasteur ou le conseil, et qu'on doit appliquer ensuite, sans discuter. Un projet qu'on mène ensemble, il faut que tous y adhèrent. Et le meilleur moyen d'y adhérer, c'est que tous participent à son élaboration. Mais si le pasteur ne décide pas seul du projet, il est normal que celui à qui on a reconnu des capacités de leader tienne un rôle important dans la définition de ce projet. En effet, à partir du moment où l'Église reconnaît quelqu'un comme pasteur, entre autres pour la conduire, si elle est cohérente, elle l'écoute quand il parle du projet, de la vision. Ainsi donc, vous me demandez quelle est ma vision pour l'Église. Comme je vous le disais, avant de savoir où on va, il est bon de savoir qui on est. Je me suis donc penché sur l'identité de notre Église. Tout d'abord, il est important de se souvenir que notre Église a une vocation d'accueil. Clermont-Ferrand est une ville de passage, une ville où arrivent des étudiants, de jeunes actifs ou des expatriés en formation. C'est également une ville où il y a peu d'églises évangéliques. Et si on recherche une église qui ne soit pas charismatique, alors là, le choix d'église est carrément minimal. Du coup, on se retrouve dans notre église avec des personnes qui viennent d'horizons différents, aussi bien géographiques qu'ecclésiologique. Depuis le début de son existence, cette Église a accueilli. Nombreux sont ceux qui ont été contents d'y trouver une famille. Et même si beaucoup sont repartis vers d'autres villes comme ils étaient venus, plusieurs ont souhaité garder et entretenir le contact avec cette famille qu'ils ont trouvée ici. L'accueil n'est pas cantonné à un sympathique amour fraternel. Nous avons aussi fait de la place à ceux que nous accueillons. fait de la place pour qu'ils exercent leurs dons parmi nous, par le service, pour qu'ils mettent en place leurs projets et les réaliser avec eux. C'est là une autre facette de l'accueil. Nous ne sommes pas là seulement pour être bien, mais aussi pour collaborer ensemble pour le Seigneur et nous faire de la place les uns aux autres dans cette collaboration. Nous nous sommes ouverts à ce que les différents membres avaient à offrir et notre Église s'en est trouvée enrichie. Une deuxième facette de notre identité, elle nous a été soufflée. En mai 2011, André Wilkinson nous donnait la piste suivante. Il nous invitait à considérer notre Église comme une école et un hôpital. Je trouve intéressant de considérer notre Église sous cet angle-là. Je discerne rapidement le côté école. D'abord parce qu'il y est dispensé, je crois, un enseignement de qualité. Cet enseignement est donné à travers les prédications, les études bibliques ou les différents groupes. La force de cet enseignement tient, à mon avis, autant à la qualité des enseignants qu'à leur diversité qui permet de toucher toutes les sensibilités de l'Église. Mais notre Église est aussi une école du service. Les responsabilités sont réparties entre beaucoup, sans laisser de côté, en particulier, les jeunes, ce qui donne à chacun l'opportunité de servir et, ce faisant, d'apprendre à servir. Et dans une ville de passage comme la nôtre, lorsque certains repartent, ils emmènent avec eux l'envie de servir et la pratique qu'ils ont développée parmi nous. Le côté hôpital est peut-être plus discret, mais tout aussi présent. Il s'exerce à travers le ministère pastoral, ministère partagé et réparti sur plus que sur les seuls anciens. Plusieurs, en effet, dans cette église sont attentifs à leurs sœurs, à leurs frères, ils s'occupent d'eux de façon discrète mais efficace. Certains même parmi nous se forment pour être plus efficaces dans ce service. En plus de ce côté discret, le soin s'organise parfois, comme avec le groupe de jeunes parents que nous avons eu il y a quelque temps, l'occasion de prendre soin de ceux qui découvrent ce nouveau rôle dans leur vie. Ou encore avec la venue, lors des venues de Mission Vie et Famille, venues pas seulement pour enseigner, mais aussi pour avoir des entretiens et soigner. Ces deux aspects, école et hôpital, peuvent être mieux organisés, mieux mis en valeur. La formation des responsables, par exemple, pourrait être mieux suivie. Le suivi pastoral pourrait être mieux coordonné. Mais ces deux aspects, une école, un hôpital, font partie de qui nous sommes. La troisième facette qui me semble importante dans l'identité de notre Église, c'est sa grande maturité. Les chrétiens qui s'y trouvent, ils sont solides, connaissent ce que le Seigneur leur demande et n'hésitent pas à s'investir, y compris dans les tâches importantes telles que la prédication, l'organisation, l'évangélisation ou la direction. Notre Église est capable de fonctionner sans pasteur, et elle l'a fait. Elle est capable d'animer les cultes, d'organiser toutes sortes d'activités, et même de prendre soin de ceux qui en ont besoin. Si elle veut un pasteur, c'est par choix. C'est pour bénéficier d'un homme disponible, disponible pour que tout tourne bien, pour être sûr que personne n'est oublié, un homme qui a l'esprit libéré pour garder en tête là où l'Église doit aller. Quelle est sa vision ? Voilà donc qui nous sommes, une Église qui accueille des chrétiens divers, qui souhaitent enseigner et soigner, et qui est mûre et capable. Nous devons être conscients aussi, au moment où nous formons le projet, que nous sommes une Église en mutation. Nous avons grandi, et je dirais même nous avons grandi de façon démesurée. De 28 membres en 2005, à l'arrivée de Samuel, nous passons à 74 cet après-midi. Si on estime que le double de personnes assistent au culte, on est passé d'un peu plus de 50 à un peu moins de 150, tout cela en 7 ans. Nous sommes arrivés, je crois, au bout de ce que nous pouvons faire ici. On ne tient plus dans ce bâtiment. La taille de la salle de culte freine notre croissance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la semaine dernière, pour les baptêmes, certains ont assisté au culte dehors. Et je ne parle pas du reste. Nous n'avons pas assez de salles d'école du dimanche pour faire autant de groupes que nécessaire. Et que dire de la cuisine ? À chaque repas, il faut faire des exploits pour tout préparer sans se marcher dessus. Notre organisation souffre également. Des plaintes montent concernant le manque de leadership dans l'Église, alors que le conseil est surchargé. Quelque chose ne va pas. Nous devons libérer du temps au conseil pour qu'il conduise l'Église dans son projet. Côté finance, ça suit même trop bien. Nous sommes bénéficiaires, depuis des années les offrandes grimpent, merci Seigneur, mais cette générosité de Dieu, qui se voit à travers la générosité des membres, nous devons en être dignes, en utilisant de façon responsable cet argent que Dieu nous donne pour l'avancement de son royaume. Et en parlant de mutation, comment ne pas parler du groupe Sud, des chrétiens de notre Église qui se réunissent avec le dessein de démarrer une nouvelle Église. Ils sont prudents, ils ne fanfaronnent pas, mais ce qui se fait là-bas, c'est du solide. Et quand le groupe Living Hope vient leur rendre visite, c'est toute l'Église que ça remue. Au milieu de tous ces changements, certains craignent de perdre l'Église qu'ils ont connue, qu'ils ont aimée, qu'ils ont construite. Difficile pour ceux qui ont connu une Église familiale de ne plus pouvoir connaître tout le monde, ne plus pouvoir dire bonjour à tout le monde à la fin du culte. Il ne faut pas les laisser au bord du chemin. Et la meilleure façon de le faire, c'est de gérer notre mutation sans oublier qui nous sommes. Alors avec tout ceci, quel projet bâtir ? Sachant qui nous sommes, ce que nous traversons, quelle vision proposer ? À l'Église. Je vous livre ma proposition. Nous devons prendre possession de notre nouvelle taille. Tout d'abord, je crois que nous devons trouver notre taille. Comme je disais, nous avons connu une forte croissance, passant en 7 ans d'environ 50 personnes à 150. Ce changement de nombre a également entraîné un changement d'église. En effet, à différentes tailles correspondent différents types d'églises. André Ponal, dans un article consacré au projet d'église, justement, propose une classification des églises par taille. Entre 8 et 12 personnes, l'église, c'est une famille, conduite par un père, où tout le monde a des relations avec tout le monde. Entre 20 et 50, André Ponal appelle le groupe un clan. Comme une famille étendue, le clan rassemble plusieurs générations sous l'autorité d'un patriarche. Tout le monde se connaît, même si tout le monde ne se fréquente pas, même si tout le monde ne fréquente pas tout le monde de manière assidue. Si on y trouve sa place, il fait bon y vivre. C'est un bon descriptif de notre Église en 2005, au début du ministère de Samuel. Aujourd'hui, nous sommes plutôt une tribu, entre 80 et 150. La tribu rassemble plusieurs familles et plusieurs générations sous l'autorité d'un chef. Tout le monde se connaît, mais pas toujours par son nom, peut-être seulement de visu. Il y a une certaine spécialisation des rôles, mais de temps en temps, tout le monde exprime l'unité du groupe en participant à la même activité. Si le pasteur fait du bon travail et s'entend bien avec le conseil, la tribu donne à chacun les moyens de s'épanouir. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Encore faut-il digérer notre croissance rapide. Au-delà de la tribu, c'est le bataillon, entre 220 et 500. Un bataillon, c'est un rassemblement où on ne connaît pas tout le monde, même de visu, et qui est animé par une équipe professionnelle avec une organisation assez poussée. Tout le monde ne s'occupe pas de tout. Il y a au moins deux ou trois permanents avec des ministères très nettement spécialisés. À l'intérieur du rassemblement, il y a plusieurs groupes distincts et plusieurs options possibles. Je crois que ce n'est pas la taille vers laquelle nous devons aller. L'identité de notre Église, c'est de rester à une taille où on peut se connaître et s'entourer. En bataillon, nous ne pourrions plus accueillir de la même façon. Nous nous éloignerions trop de ce qui est l'identité de cette Église, identité que nous voulons conserver. Il nous faut donc viser une taille où nous serons à l'aise, et je dirais entre 150 et 200. Et arrivé à la taille visée, bien entendu, on ne s'arrête pas. Vous vous souvenez, Jésus a dit « de toutes les nations ». Il y a encore du boulot. Quand nous dépassons la taille que nous nous sommes fixés, il est temps d'envisager un essaimage, l'envoi vers un autre lieu d'une partie de notre Église pour en fonder une autre. Peut-être vous demandez-vous pourquoi ne pas essaimer dès maintenant. Nous pourrions dire, fondons une église à Cournon. Et on pourrait dire, ceux qui habitent à Cournon, Beaumont, Aubière, Landes, Olna, c'est là-bas que vous allez à présent. Je crois que ça ne marcherait pas. Pas aujourd'hui. Il me semble que nous n'y sommes pas préparés. Il faut du temps pour se préparer à partir, il faut du temps pour se préparer à laisser partir également. Alors, pourquoi ne pas essaimer à Brioude ? Brioude, seule une douzaine de personnes est concernée. Je ne veux pas minimiser la chose. Ça va être difficile de les laisser partir. Et ils auront besoin de nous, de notre soutien. Mais leur départ ne réglera pas le problème de place. L'église sera toujours aussi pleine. Pour moi, Brioude, ce n'est pas un essaimage. Nous devons le considérer comme une implantation d'église. Mais il faut soutenir le projet du groupe Sud. Une église à Brioude, je crois que ça se fera. La question, c'est, voulons-nous l'accompagner ou rester sur le bord de la route ? Nous avons, avec ce projet du groupe Sud, une invitation à participer à l'évangélisation de l'Auvergne. C'est une occasion, je crois, à ne pas rater. Je crois que nous devons nous préparer à essaimer, c'est-à-dire à envoyer une partie significative de notre Église ailleurs, dans un temps un peu plus long. Cournon au Sud, Rion au nord, nous verrons. Mais imaginez, nous pourrions avoir à long terme, à très long terme, en Auvergne, un réseau d'églises de la même famille, d'églises filles, mettant en commun leurs moyens pour aller plus loin, des permanents qui sont capables de desservir plusieurs églises, des projets en commun. Mais bon, je m'avance un peu, c'est un peu plus loin que le sujet du moment. Trouvons notre taille. Trouvons notre taille. Et après cela, nous devons nous adapter, adapter notre organisation à cette nouvelle taille. La première chose à faire est de trouver un lieu pour nous accueillir. Si nous n'essaimons pas, nous avons besoin d'un nouveau lieu de rassemblement. Nous avons besoin d'une salle de culte pouvant accueillir au moins 250 personnes. Nous avons besoin de suffisamment de salles annexes pour l'école du dimanche, mais aussi des salles pour le groupe de jeunes, pour qu'ils puissent se détendre, se sentir chez lui, d'une crèche, suffisamment grande pour que ceux qui marchent n'écrasent pas ceux qui sont encore à quatre pattes. Nous avons besoin d'une cuisine utilisable. Pour être honnête, ce lieu capable de nous accueillir, nous l'avons peut-être déjà sous les yeux. Le local situé boulevard Pourchon constitue, à mon avis, une sérieuse possibilité. Les travaux de la commission immobilière ont permis de voir que ce bâtiment, le premier que nous avions visité, présente de nombreux intérêts. En termes de superficie, ce bâtiment a largement des capacités pour nous accueillir. Mais ce bâtiment, pour moi, c'est plus qu'une grande surface. C'est une présence au cœur d'un quartier, avec des immeubles, tous tournés vers la terrasse de l'église. Et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer l'apéritif ou le barbecue de rentrée avec les gens de leurs fenêtres qui nous regardent et l'invitation qu'on peut leur faire à venir nous rejoindre. Un bâtiment au cœur d'un quartier, il ne nous reste plus qu'à imaginer ensemble comment servir ce quartier. Et je sais, pour en avoir parlé avec certains, qu'il y a déjà des idées parmi vous. Une fois encore, je m'égare. Nous réfléchissons aujourd'hui au projet d'église. Le local du boulevard Pourchon n'est qu'un moyen pour y parvenir. Gardons-le en tête, néanmoins. S'adapter à notre nouvelle taille, ce n'est pas seulement changer de bâtiment. André Ponal écrit « Lorsqu'on change de taille, il ne s'agit pas tout simplement de faire mieux et plus, mais de changer de manière et de mentalité. Il faut oublier ses habitudes et renoncer aux outils et aux recettes qui marchaient à l'étape précédente. Il faut adapter notre organisation. L'organisation en place, aujourd'hui, est née en 2003, quand l'Église s'est constituée en association. Nous étions alors 25 membres, trois fois moins que ce que nous sommes aujourd'hui. Cette organisation n'est peut-être plus adaptée, n'est sûrement plus adaptée à notre situation aujourd'hui. Alors, au fur et à mesure des années, l'Église a pris des décisions concernant son fonctionnement. C'est un premier pas dans l'adaptation de notre façon de fonctionner. Ces décisions doivent être retravaillées, rassemblées, examinées, et puis officialisées. De même, le fonctionnement du Conseil doit être réinterrogé. Aujourd'hui, le Conseil est dans le paradoxe d'être débordé sans réussir à répondre aux attentes de l'Église en termes de participation au projet, de transmission des priorités, de rappel du projet d'Église. Des possibilités existent. Nous avons mis en place le rôle d'IP, d'interlocuteur privilégié des responsables d'activité. Ce rôle peut être creusé et peut-être permettre au Conseil de dégager du temps. En tout cas, nous devons étudier cette question. Une autre chose à renforcer, je pense, ce sont nos groupes de maison. Notre taille rend la communication plus difficile à vivre à la fin du culte. Les groupes de maison peuvent être une réponse à cela. Ils peuvent être ce lieu de relations privilégiées et profondes entre sœurs et frères. Des groupes existent. Ils ont besoin d'être encouragés, leurs responsables aidés, afin qu'ils aient tous des rendez-vous réguliers. D'autres groupes peuvent être créés afin que tous aient la possibilité d'assister à un groupe près de chez eux. Et les fidèles de l'Église doivent être encouragés à y participer. Trouvons notre taille. Adaptons notre organisation. Tout ceci, faisons-le sans oublier qui nous sommes. Une Église accueillante, accueillante des personnes autant que de leurs projets. Une école-hôpital qui prend soin des gens et les forme pour le service. Une Église mûre où tous s'investissent. Une Église capable de s'approprier la vision, de participer à son élaboration, de l'adopter, de la faire vivre, même au-delà du départ d'un pasteur. Parlons-en du pasteur. Dans tout cela, le rôle du pasteur est primordial. Sa disponibilité lui donne le recul nécessaire pour garder les yeux fixés sur le projet. Il est bien placé pour être l'organisateur de la réalisation du projet, pour être le chef de projet, celui dont le rôle n'est pas de tout faire, mais plutôt de déléguer, d'organiser, de faire en sorte que tous trouvent une place. En déléguant, il encourage, il soutient, il facilite le service. Il a un rôle de formateur et d'entraîneur, ainsi que de superviseur. André Ponal, toujours lui, écrit « Pour la construction du projet, il faudra un bon chef de chantier, c'est-à-dire un modérateur accompli, à l'autorité reconnue, attentif à toutes les voies, ayant un bon esprit de synthèse et la confiance de tous. » Rien n'indique que ce soit obligatoirement le pasteur, mais dans nos organisations d'église, il est sans doute le mieux placé pour tenir ce rôle. Si je devais résumer ma vision pour l'église, je dirais qu'il s'agit de prendre possession de notre nouvelle taille, la trouver, nous y adapter en gardant notre identité. Alors, j'ai cité plein de choses. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître un peu fou. Assurez-vous, on ne va pas tout faire demain. Mais en réalité, j'ai l'impression de ne pas proposer grand-chose de neuf. Ce dont j'ai parlé, c'est ce que nous sommes déjà. Ce sont les changements que nous avons déjà connus. Ce sont les projets que nous avons déjà aujourd'hui. Seulement, je suis convaincu que ces projets, ils ont un sens. Et qu'à travers eux, Dieu nous propose un chemin à long terme. Et c'est ma vision de ce chemin que j'ai voulu partager avec vous. Je l'ai dit, une vision, elle s'adopte ensemble. Il y a de la place dans cette vision pour vos idées, pour vos projets, pour ce que Dieu vous a mis sur le cœur. Prendre possession de notre nouvelle taille, la trouver, nous y adapter en gardant notre identité. Alors que dire au moment de conclure ? J'ai partagé avec vous ma vision pour cette Église, ce qui a mûri en moi au cours de ces derniers mois. Vous pouvez ne pas vous y retrouver et nous aurons l'occasion d'en discuter cet après-midi. Mais il y a une chose qui est certaine. Notre Dieu, c'est le Dieu qui prenait soin de son peuple et qui en exil lui déclarait « Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'assurance. » Notre Dieu n'a pas changé. Dieu a prévu de belles choses pour cette Église. Il a un projet, une vision pour elle. Ce projet, il vous invite à y prendre part. Et il est prêt à nous conduire avec lui pour l'accomplir. Et pour avec lui accomplir des exploits. Amen.